Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Je poursuis la vie de Monseigneur Romero. Le Salvador est en pleine crise. Les catholiques sont persécutés. Les prêtres tués, dont le jésuite Rutilio, qui était l'ami de Monseigneur Romero. Dans ses homélies, ce dernier dénonce la misère et l'injustice qui règnent dans le pays. Et il considère que le gouvernement porte la plus grande responsabilité de cette situation parce qu'il doit montrer l'exemple du respect des lois. Chaque dimanche, en chaire, Romero fait la liste des événements douloureux de la semaine, communiquant même le nom des victimes. Et grâce à l'émetteur diocésain, sa voix est diffusée dans le pays. Il interprète les faits sur la base de la parole biblique et il cite sans arrêt le cinquième commandement « Tu ne tueras pas ». La réputation de Romero est celle finalement d'un prophète de justice. Il condamne fréquemment la violence. La justice est nécessaire, mais il faut l'atteindre, dit-il, à travers des moyens pacifiques. À la violence, il oppose une force de dissuasion spirituelle. Ainsi, après l'assassinat du prêtre Octavio Ortiz et de 4 jeunes qui l'accompagnaient, il dit, et je cite en partie, « Une lutte dans laquelle ne sont nécessaires ni les chars, ni les mitrailleuses. Cette lutte se mène avec des guitares et des chants d'église. Les fidèles ne sont pas unanimes par rapport à l'action de Romero, à sa manière d'être conservateur dans les principes et passionné, presque prophétique dans un discours. » Une minorité lui est opposée, une majorité souffre de voir la religion outragée. Des milliers de lettres, de billets, de messages, de simples fidèles parviennent à Romero. Ils expriment leur solidarité, leur prière, et les accents sont principalement religieux. Il y a peu d'allusions à des partis, à des tactiques, à des stratégies politiques. Romero reçoit aussi des lettres de critique généralement anonymes, avec des menaces, des insultes, des outrages. On le traite de communiste, et souvent ceux qui écrivent se déclarent catholiques et l'accusent d'avoir trahi l'Église. Ils affirment que les sermons sont machiavéliques, ou alors que sa conception du service religieux est erronée. Il existe dans le pays des communautés de base, surtout dans les campagnes. Les membres sont majoritairement des paysans, c'est-à-dire des gens simples. Pour eux, le royaume de Dieu doit se réaliser à travers la délivrance de l'oppression économique et politique. Romero souhaite que les communautés de base adoptent un caractère principalement religieux et surtout pas politique. Et il aime bien ces communautés-là parce qu'elles ont un caractère populaire. Il garde des contacts personnels d'ailleurs avec toutes. Cependant, le climat est à l'urgence. Romero peut difficilement se consacrer à la pastorale ordinaire. Il y faut à la fois défendre l'Église et la population exposée aux abus et aux violences. Les familles des personnes arrêtées, torturées ou bien disparues viennent sans cesse le chercher à l'archevêché. Alors, il doit se rendre dans les locaux des corps de sûreté pour obtenir la libération des personnes arrêtées. Même les familles des victimes de la guérilla demandent son aide. L'autorité qu'il a acquise le rend indispensable comme médiateur quand il faut démêler une situation. Romero est appelé à suppléer finalement les autorités. Pourtant, il est accusé de complaisance envers les organisations populaires de gauche. Il se sent, lui, une responsabilité publique. Alors, il ne veut pas faire de la politique. Simplement, il s'oppose à la violence dans le pays. Il défend les pauvres dans la mesure où ils subissent des injustices, non pas parce qu'ils sont des révolutionnaires, mais simplement parce qu'ils sont pauvres. Pourtant, ses adversaires l'accusent de faire de la politique. Il répond que ce qu'il fait, il le fait en tant que pasteur et à partir de l'Évangile. Il croit que l'Église doit être un guide moral pour la société et qu'elle doit inspirer les politiques dans le sens de l'éthique et de la justice. Il s'appuie pour cela sur les documents du Concile Vatican II. Et Romero est préoccupé par ces prêtres qui soutiennent ouvertement les organisations politiques de gauche. Il prend, lui, l'habitude de tenir des réunions périodiques avec des prêtres qui en font partie pour motiver chez eux un travail purement religieux. Il est agacé par les occupations des églises. Selon lui, elles nuisent au pays puisqu'elles lui font perdre le respect du sacré et lèsent le droit du peuple à ses lieux de prière. Mais il ne s'en plaignait qu'en privé pour ne pas donner à l'armée d'excuses pour déclencher une répression contre les occupants. Une sorte de tempête idéologique menace l'église de Roméo. C'est le rapport entre la foi et la politique. Ce thème est à l'ordre du jour de manière obsessionnelle de presque toutes les rencontres de Cézanne. De nombreux chrétiens identifient le royaume de Dieu finalement à la Révolution. Et Romero, lui, pense que le royaume de Dieu commence sur terre, mais pas par une révolution. Il veut la justice pour les pauvres et il pense que si on arrive à raisonner le gouvernement, on l'obtiendra. Alors là, il se fait plein d'illusions. Hein. Les réunions, les assemblées ont pour thème la clarification du rapport entre foi et politique, entre Église et actualité politique. Les différentes opinions sont débattues. Romero accepte ces discussions, imposées par des ordres du jour qui ne sont pas toujours les siens. Mais il est content quand on finit par parler de fraternité, de communion, d'aspect humain. Romero revient sans arrêt sur l'unité du clergé au-delà des divisions internes. Il discute avec ses collaborateurs sur l'hypothèse d'une nouvelle enquête menée par le clergé pour neutraliser les mouvements de division. Il invoque l'unité du clergé sur une base humaine de confiance, d'amitié, de sincérité, malgré les différents courants. Et il est très sévère envers les prêtres qu'il soupçonne de s'être transformé en activiste politique. En revanche, il est favorable à l'engagement politique des laïcs. Il souligne que la foi peut s'enrichir au contact de la dimension politique, surtout si elle est vécue au bénéfice des pauvres. Mais il ne faut pas adopter des méthodes violentes. Il faut toujours reconnaître le primat du religieux sur le politique. Et c'est pas facile dans un pays comme le Salvador, ensanglanté, complètement survolté. Romero considère les organisations populaires de gauche avec respect, sympathie, dans la mesure où elles présentent des revendications utiles au bien commun. Nous allons faire une première pause musicale.
Sabor cerveja, sabor cigarro, mentol, hortelã. Tem gosto, sonha a tua boca, tua voz rouca no meu ouvido. Não faz sentido, não faz sentido. Quase um milagre se é de manhã. Se esvai nas horas, dorme comigo. Não faz sentido, quase um consolo da meia-noite. Não vai embora. Meu gozo preso, preto sem rumo. Sonho no bolso, quase um presente, pai dos meus filhos. Se esvai nas horas, dorme comigo, dorme, ai. Dorme comigo, dorme, ai. chance. Ele tem medo, ele tem medo. Eu tenho dúvida, quase uma dádiva. Meu erro parece em lei, mas é enlace. Ele me abraça de madrugada, ele me beija, deixa sabor cerveja. Meu erro tem gosto sonho a tua boca, tua voz rouca no meu ouvido. Não faz sentido, não faz sentido. Quase um milagre se é de manhã. Se esvai nas horas, dorme comigo. Não faz sentido, quase um consolo da meia-noite. Não vai embora, é o que eu digo. Ele é meu erro, quase um engodo. Meu gozo preso, preto sem rumo. Sonho no bolso, quase um presente, pai dos meus filhos. Se esvai nas horas.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Monseigneur Romero, qui a été assassiné le 24 mars 1980, et je reviens sur sa philosophie. Lui, il dit qu'il ne faut absolument pas mélanger la religion et la politique. Et il ne propose pas de voie moyenne. Il pense que les problèmes du Salvador plongent dans leurs racines dans une grave injustice sociale. La richesse dans les mains de peu de personnes et la masse du peuple dans la misère. Et il dit que la disparition de cette injustice, c'est un acte absolument nécessaire. Il pense qu'un socialisme latino-américain pourrait adopter des caractères différents de ceux du socialisme soviétique ou chinois. Et pourtant, il n'est pas favorable au marxisme, pas plus d'ailleurs qu'au capitalisme. Il n'adopte pas une position neutre au sein de la société salvadorienne, il se range du côté de cette partie composite de la société qui veut mettre un terme à l'injustice sociale. C'est ça qu'il guide et pas autre chose. Romero n'est pas partisan de la politique des classes. Religieusement, il faut un choix qui soit vraiment pour les pauvres, mais il dit que le peuple est composé de secteurs d'extraction sociale différentes et que la société pluraliste est une bénédiction de Dieu à condition que la justice soit présente. Pour les journalistes internationaux qui travaillent au Salvador, Romero, c'est l'aiguille stratégique de la balance du pays. Pour eux, il est le personnage central de la vie publique salvadorienne. Chaque dimanche, ses homélies indiquent la température du pays. Avec quelques paroles, il peut orienter les masses populaires. Mais le fait que chacun de ces actes ait une grande retombée politique ne signifie pas qu'il a l'intention de faire de la politique. Alors j'ai l'air de me répéter, mais c'est ce qu'il martèle lui sans arrêt. Ses amis donc, sont d'avis qu'il n'est pas capable de toute façon d'en faire de la politique de manière technique, parce qu'il est plutôt finalement naïf. En privé, un interlocuteur qui sait se mettre au diapason avec ses préoccupations peut facilement obtenir son accord, par exemple. Cependant, il a une logique linéaire et on ne peut pas le tromper longtemps. Tôt ou tard, il vérifie dans les faits la sincérité de ses interlocuteurs. Il se conduit, dit-il, en évêque. Dans une situation comme celle vécue au Salvador, le fait de ne pas être un homme politique lui confère, finalement c'est un paradoxe, une autorité politique. Il souhaite que le Salvador ait une classe politique talentueuse et non que l'Église assure la suppléance de l'État. L'archevêque Romero est avant tout un prêtre. Il aime dire la messe, il aime parler de Dieu, communiquer son message aux fidèles, répandre la prière et la dévotion. Il est enchanté par les thèmes des fêtes liturgiques, toujours les mêmes dans le calendrier bien sûr, mais toujours nouvelles dans leur interprétation. Il aurait bien aimé ne s'occuper que de religion. À l'issue d'une tentative exténuante de médiation pour convaincre une organisation politique de mettre un terme à l'occupation de l'ambassade de France et de libérer les otages, il est heureux de retrouver ses activités religieuses habituelles. Il entretient des rapports cordiaux avec les protestants qu'il considère comme des chrétiens à part entière. Mais ce n'est pas le cas avec les sectes néo-protestantes d'origine nord-américaine. Je vous disais que toutes les pensées de Romero vont aux pauvres, mais il ne s'en tient pas là. Il envoie de l'argent aux pauvres qui lui écrivent. Il signe des lettres de recommandation pour trouver du travail. Il loge dans les locaux d'un hôpital pour nécessiteux en phase terminale. Il les visite régulièrement. C'est un prédicateur en plus hors pair. La cathédrale, c'est son principal lieu d'activité. Quand il s'approche de l'autel, eh bien vraiment, il semble se transformer. Il prêche avec force, avec autorité. Il a un magnétisme de la parole, on l'écouterait pendant des heures. Quand il a fini, il est complètement épuisé. Il prononce ses sermons à 8 heures du matin pour échapper à la chaleur. Et on possède 200 homélies publiées en 7 volumes avant et après sa mort. Son aisance oratoire lui permet d'improviser quel que soit le sujet. En public, dans ses homélies, dans ses discours, Romero montre une grande maîtrise de ses arguments. Ce n'est pas la même chose dans le privé. Alors il cherche conseil, il est vulnérable, il demande pardon. Il reçoit tout le monde, amis et adversaires, communistes, militaires, riches, pauvres. On peut dire qu'il y a l'archevêque Romero et l'homme Romero, les deux se complétant. L'administration de son diocèse n'est pas simple. Certains jours, il a du mal à recevoir ses visiteurs sans être continuellement interrompu par des informations urgentes ou des appels téléphoniques, si bien que parfois il invite son interlocuteur dans sa Toyota pour pouvoir discuter au calme. L'administration du diocèse est difficile. Les médias diocésains sont critiqués, surtout par les catholiques qui sont politisés. On reproche à la presse diocésaine de ne pas se consacrer davantage à la défense des prêtres et des fidèles qui sont frappés par la répression. Et Romero va de réunion en réunion. Un peu vite, il se confesse à lui-même : « Je dois corriger ma rapidité excessive à prendre des décisions que je change par la suite. » En tant qu'archevêque, il n'est pas un bon coordinateur. Il est plus un pasteur qu'un administrateur. L'organisation de la curie, les réunions, la coordination ne font pas partie de ses qualités. Il est impulsif. Il sait qu'il l'est. Et vraiment, à la différence de son prédécesseur Chavez et de son successeur Rivera Damas, il offre lui son amitié et sa confiance en un instant, mais il peut les retirer aussi vite selon les impulsions de son cœur. Vivant dans un état d'urgence permanente, assailli par toutes sortes de requêtes, soumis à des pressions continuelles, incapable de respecter un agenda de rendez-vous d'engagement et de rencontres programmées, Romero n'a pas le temps de comprendre en profondeur ses collaborateurs et il a besoin d'une assistance, d'une confiance inconditionnelle. Alors parfois il s'emporte, mais aussitôt il demande pardon sans hésitation. Un jeune prêtre, peu de temps avant son assassinat, dit de lui « C'était un homme différent de tous les autres. Il était timide, simple, intelligent, nerveux, irascible, mais il était ensuite prêt à demander pardon pour ses intempérances. » Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Playa coqueta, playa risueña de mar.
al soleaje, en las arenitas tuyas pongo su nombre todas las tardes. Tus aguas tan rumorosas que al irse dejan un fino encaje, le cantan a mi costeña y le acompañan los madrigales. Caleta de mi Acapulco, siempre vestida de azul y verde, pensando, pensando en ella, deja Caleta que la recuerde. Tus aguas tan tibiecitas me compitieron en las caricias de su cuerpo nazareno, que es mi ternura, que es mi delicia. Baña su cuerpo lindo, roqueta, brillo del faro, las negras rutas iluminando. Tus ojos como dos astros mi pobre vida van alumbrando, tan llenitos de ternura de la costeña que estoy amando.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Monseigneur Romero, qui a été assassiné le 24 mars 1980, et je vous parle un petit peu de son caractère. Pour lui, tout était urgent, tout devait être fait tout de suite, mais il était avant tout un homme d'oraison. Il est très méthodique, très précis, il fait ses valises lui-même avec un soin méticuleux, et il fait de la gymnastique dans sa chambre, il aime bien les promenades, il aime marcher, il aime bouger. Tout l'intéresse. Lors de ses voyages, on ne le connaît où, là où on ne le connaît pas, il visite les marchés, il s'arrête pour parler aux gens, il va aussi au cinéma quand il se trouve hors du Salvador. Son logis au sein de l'hôpital de la Divine Providence est l'appartement modeste du portier. Quand il a pris possession de l'archidiocèse, il a décliné la proposition de loger dans une grande maison confortable des beaux quartiers. Et lui, il craint d'être vaniteux à cause du succès de ses sermons. En 1979, 118 membres du Parlement britannique et 76 membres du Congrès américain le proposent pour le prix Nobel. Alors finalement, ce dernier est attribué à Mère Teresa, si vous vous en souvenez. Eh bien, Romero lui envoie aussitôt de chaleureuses félicitations. Romero, archevêque, devient rapidement un personnage international, une personnalité influente, vraiment prestigieuse. Le président des États-Unis de l'époque, Jimmy Carter, commence à prendre en compte ses appels. Beaucoup de personnes essaient d'influencer Romero. Sa prise de position en faveur de la junte révolutionnaire du 15 octobre 1979 et de la tentative réformiste de cet exécutif mixte de militaires et de civils fait réfléchir. Pendant quelques mois, Romero devient impopulaire parmi les secteurs politisés de l'Église et son évêché est même occupé par une organisation de gauche. Romero reçoit des menaces de mort émanant de la gauche. Il passe à tort ou à raison que ce gouvernement peut éviter une guerre civile au Salvador. Il pense, pardon, à tort ou à raison que ce gouvernement peut éviter la guerre civile au Salvador. Romero, c'est vraiment un homme sollicité par tout le monde, sous pression, débordé par les nombreuses personnes qui le mobilisent sans prévenir pour qu'il traite leurs besoins. Il est le point vers lequel convergent tous les problèmes et tous les événements qui concernent la nation. Il envoie plusieurs fois ses représentants discuter avec les autorités civiles pour chercher des solutions. Romero demande au Saint-Siège même un nouvel auxiliaire pour le San Salvador, en la personne de René Ravelo. Et c'est un choix malheureux, parce que celui-ci va même jusqu'à envoyer à Rome des informations négatives sur Romero. Ben, on peut dire qu'il s'agit purement de jalousie à cause du prestige, de la réputation et de l'autorité de Monseigneur Romero. Ce dernier alors se rend à Rome, c'est la quatrième fois. À chaque fois, il est ému. Sa première visite, à chaque fois, est pour les tombes de Pierre et de Paul. Et ensuite, il rencontre Monseigneur Baggio pendant 2 heures. Ce dernier ne cache pas à Romero que les évêques du San Salvador, à l'exception de Rivera, ont demandé sa destitution, carrément. Il rencontre même Jean-Paul II, qui a été élu le 16 octobre 1978. Eh bien, le pape n'apporte pas de réponse définitive aux questions posées par Romero. Il fait des parallèles avec la Pologne. Alors là, Romero n'y comprend rien du tout parce qu'il trouve que ça n'a rien à voir. Cependant, il ne met pas en doute le jugement de Romero au sujet de la situation au Salvador. Et il se contente de lui conseiller la prudence. Point final. À partir de janvier 1980, le Salvador vit dans la hantise de la guerre civile annoncée. L'ambassadeur américain informe le département d'État « L'extrême droite est en train de s'armer et de se préparer à un conflit en vue duquel elle espère bien s'allier avec les militaires. » L'extrême droite du Salvador, bien sûr. L'opposition de gauche s'unifie, les groupes de la guérilla fusionnent, les communistes s'en mêlent aussi, la terreur va croissant dans les campagnes. On enterre les Bibles pour ne pas provoquer la haine homicide. Avoir chez soi des photographies de Romero peut coûter la vie. Nous allons faire une dernière pause musicale.
Ometepe bello lindo de infinitas ilusiones, vengo a ti vergel florido a cantarte mis canciones. Son tus hermosas mujeres de un encanto sin igual, un reflejo de lo que eres, bella tierra tropical. Vengo yo a cantar aunque no sé que siga y que siga el gusto y que viva Ometepe. Al llegar a Ometepe debí ser una morenita y como es de suponerse le hice luego una ceñita. De los pies hasta el sombrero con su mirada, me dijo cumple el rastrero o me dejas como estaba. Tirana, vengo yo a cantar aunque no sé que siga y que siga el gusto y que viva Ometepe.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Monseigneur Romero, qui a été assassiné le 24 mars 1980. Et en ce moment, la guerre vraiment se déclare à fond dans le Salvador. Je vous rappelle que si on enterre une Bible pour ne pas provoquer la haine homicide, qu'avoir chez soi des photographies de Romero peut coûter la vie. Des listes de personnes à terroriser et à viser sont établies d'un côté et de l'autre, à droite comme à gauche. Romero prêche. La violence est le recul de la civilisation, dit-il. Durant ces mois difficiles, il est un médiateur infatigable. Lui, il se définit plutôt comme un réconciliateur. Dès le début, il reçoit des insultes, des menaces, des appels téléphoniques de jour comme de nuit. Dès 1978, les riches critiquent sa prédication qu'ils qualifient de communiste et disent que la meilleure solution serait de le faire assassiner. Aux menaces de mort émanant de la droite s'ajoutent celles de la gauche. Romero sait que sa mort est probable et même imminente. Bien que convaincu d'être en danger, il ne quitte pas le pays. Il ne se fait pas protéger pour n'entraîner personne dans la mort avec lui. Il est donc assassiné le 24 mars 1980 pendant la messe, le lundi de la dernière semaine de carême. Un photographe présent prend des clichés. Les sœurs de l'hospitalité pleurent. Un véhicule transporte Romero à la polyclinique Salvadorena, mais il décède d'une hémorragie interne peu après son arrivée. Il a 62 ans. L'enquête est confiée au juge Attilio Ramirez Armaya, qui travaille dans de grandes difficultés. Les services de police se mettent aussi au travail avec plusieurs jours de retard. L'enquête, on peut dire, est littéralement bâclée. On tente même d'assassiner le juge qui fuit alors au Venezuela. L'enquête dure 14 ans, sans aboutir à un procès. Une commission se crée alors sous l'égide de l'ONU. On finit par identifier l'assassin, Walter Antonio Musa Alvarez, et il est assassiné à son tour en 1981. Ce n'est pas sans rappeler un autre événement, n'est-ce pas ? Les documents dont on peut avoir connaissance mènent au fait que l'organisateur de l'assassinat est Roberto d'Aubuisson, un militaire qui a créé un mouvement de droite, un fanatique qui, par exemple, a étouffé un mouvement de protestation des enseignants en les faisant assassiner un par jour. On raconte que dans les beaux quartiers de la capitale, on a trinqué au champagne le soir du 24 mars 1980. Au revoir à tous.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? La luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.